cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe le 21 décembre l'an 2000 à Saint-Jean-d'Arc.
C'est le dernier cours de l'éthique. On a vu comment l'amour d'amitié commandait la prudence, la justice, la force et maintenant la tempérance. Je crois qu'il serait très difficile de vivre une amitié avec quelqu'un qui ne chercherait pas à dominer sa passion du concupiscible. C'est la passion la plus radicale, la plus fondamentale, puisque irascible présuppose toujours un premier amour. C'est pour ça que l'irascible peut aller très loin dans ses vengeances amoureuses. Parce qu'il y a toujours un amour avant. Et l'irascible, très facilement, veut être gardien de l'amour. Comme c'est une passion de force. Et que l'amour, à la fois, c'est ce qu'il y a de plus fort, et aussi, c'est ce qui nous rend le plus fragile. La passion du concupiscible nous rend très fragiles. Parce qu'on peut toujours être surpris par la séduction du concupiscible. Il y a le concupiscible qui se porte sur le bien sensible. C'est le bien sensible, et c'est la diversité des biens sensibles qui nous fait comprendre la manière différente dont on acquiert la tempérance. La tempérance, c'est la vertu acquise, conquête sur le concupiscible, qui fait que le concupiscible s'arrête pour la justice. Je vois chez mon voisin un stylo magnifique. Le concupiscible s'éveille. C'est un bien matériel, le stylo. Et si j'écris beaucoup, c'est un bien intéressant. Il a un très bon stylo. Il faut avoir le concupiscible porté là-dessus. C'est pas très dangereux. Et je suis intelligent, je guette, je sais les mœurs de mon voisin. Je m'aperçois qu'à un moment donné, il va perdre son stylo. Ça manque de respect à la justice. Et le concupiscible va contre ça. Je peux facilement, aujourd'hui où on manifeste beaucoup les bien sensibles. Autour de Naël, les magasins de Paris sont terribles pour cela. Parce que chaque année, il y a quelque chose de nouveau comme jouet qu'on présente aux enfants. Et il faut voir les enfants regarder ça. Et alors on a les enfants regardent le jouet et la mère à côté regarde le prix. Alors, si le prix va encore avec le portefeuille, le porte-monnaie, on cède à la concupiscence du petit. Si le prix dépasse, c'est pas pour nous. Non, c'est pas intéressant. Viens. Qu'il n'y en ait pas. Il traîne la patte. Il veut quand même rester et entrer. Et puis, cet enfant, les enfants voient tout. Ils deviennent curieux quand il y a quelque chose qui les intéresse. Ils voient, passant à côté de lui, une autre mère avec un autre enfant. Le portefeuille est mieux garni. Ça se voit pas, ça. C'est pour les grandes personnes. Et la mère entre acheter ce jouet pour notre enfant. C'est terrible pour l'enfant, ça. Ça détraque tout. Bon, cette mère aime son enfant puisqu'elle lui achète ce jouet. Et il ne l'achète pas pour l'autre, alors ça fait la jalousie. Les jalousies commencent comme ça. Les jalousies sont toujours à base du concupiscible. Alors quelquefois, ce n'est plus un jouet quand les personnes sont plus grandes. C'est quelqu'un qu'on aime, une personne. On l'aime. Et on n'est pas très amicabilis. Il y a un autre frère qui est bien plus amicabilis. Il arrive à chiper mon bien. Et je vois que sa figure est toute changée quand il voit ce frère. Tandis que moi, quand je le vois, il me regarde comme... Oui, comme un frère, mais c'est tout dire. Hein. Il me regarde comme un frère. C'est-à-dire qu'il est gentil extérieurement. C'est extraordinaire comme notre monde est un monde qui éveille le concupiscible. Tout. Depuis le jouet de l'enfant, jusqu'aux affiches érotiques, jusqu'au cinéma érotique, parce que l'érotisme développe le concupiscible. Notre monde est un monde qui est fait pour le concupiscible. Et ça explique beaucoup de choses. Parce que quand le concupiscible est vraiment éveillé, surtout lorsqu'il s'agit des biens, qu'ils ont plus seulement des biens sensibles, des objets sensibles, mais que ces biens, ce soient des personnes qu'on aime d'une manière érotique. Parce que le concupiscible implique l'éros, le concupiscible érotique, et développe ça. Alors notre monde, à la place d'éduquer ce qui devrait être, si on avait un monde normal, un monde qui a été christianisé, quand il n'est plus christianisé, dégringole plus bas qu'un monde païen. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'Europe a été christianisée, et l'Europe, au point de vue de l'érotisme, descend plus bas. Et vite, très vite. Il y avait la famille qui était encore un peu sauvegardée, et la famille n'est plus sauvegardée. Alors, on a aujourd'hui un monde terriblement érotique. Vous voyez, ce qui s'enseigne dans les écoles publiques et qui doit s'enseigner, c'est éveiller le plus vite possible l'érotisme chez l'enfant. Développer l'instinct sexuel le plus qu'on peut, sans voir que l'érotisme au plan sexuel peut mener à des crimes, étant donné sa force. Et la jalousie qu'il entraîne sont des jalousies farouches. Et ça détraque, ça ébranle l'individu dans ce qu'il a de plus profond. Sensiblement, c'est pas ce qu'il y a de plus profond au point de vue spirituel, mais sensiblement, c'est l'érotisme qui nous saisit le plus, sous toutes ses formes, même des formes très artistiques quelquefois. Il y a un érotisme qui peut être très artistique. L'érotisme qui porte sur justement un amour sexuel à l'égard du même sexe. Cet érotisme peut se développer extraordinairement. C'est connu dans toutes les périodes où il y a une baisse au niveau vertu, érotisme augmente et peut devenir alors un panérotisme. L'érotisme prend tout. Freud, à sa part sa philosophie, a sûrement augmenté cela. Donc, l'acquisition de la vertu de tempérance devient de plus en plus nécessaire. Et elle est indispensable dans la vie commune. De notre temps, je dis de notre temps, de mon temps, chez les Dominicains, la cuisine était un lieu où personne ne pénétrait que le frère convert chargé de la cuisine. Les frigidaires étaient moins connus. Le frigidaire est encore un moyen qui peut attiré, parce que la première chose qui t'a éduqué, c'est que l'enfant mange seulement à des heures précises. C'est une petite sagesse. C'est la sagesse qu'on donne pour l'enfant. C'est la première éducation. Et c'est la première éducation du concupiscible. Du concupiscible à l'égard de l'aliment. Si cela n'a pas été fait, et ça existe, ça n'a pas été fait, on mange quand on a faim. Et quand on mange quand on a faim, on a toujours faim. On a toujours faim quand on sait qu'il y a telle ou telle chose qui éveille davantage notre appétit. Pour chacun d'entre nous, on a des aliments qu'on aime plus. La vie commune, où on mange à l'heure donnée, où l'on mange le repas de tout le monde, exige la vertu de tempérance. Et la vertu de tempérance commence par le point de vue de l'aliment. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est la passion la plus fondamentale, la plus enracinée en nous, et donc la vertu première pour dominer ces passions, cette passion toute simple, de bien manger, de bien boire, et la première vertu qui doit se développer en nous, et un monde qui ne fait plus attention à ça, très vite devient un monde sauvage, sans vertu. La vertu de tempérance va se perfectionner en quelque sorte, s'étendre à la chasteté. C'est un bien sensible, plus radical. Plus radical. Pas au point de vue de l'individu, mais au point de vue de l'espèce. C'est très curieux, du reste. Le jeu philosophique qu'il faut étudier, il faut le voir, il faut avoir conscience de ça. Le bien individuel, foncier, c'est la nourriture et les poissons. On le domine par la tempérance. On le domine, on l'éduque par la tempérance. Il ne s'agit pas de prendre l'inverse, de ne plus vouloir manger, alors ça entraîne d'autres défauts. La vertu de tempérance fait qu'on doit manger pour être capable de penser et d'aimer. Si on s'affaiblit tellement qu'on ne mange plus, on ne sera plus capable de penser et d'aimer. On ne pensera qu'à son corps. Donc la vertu, in medio stat, entre deux extrêmes, manger trop, pas manger du tout. Pas manger du tout n'est pas vertueux. Il faut manger. Il faut manger ce qui est normal de manger. Mais il y a toujours la pénitence, la sagesse de l'Église qui met des temps de pénitence, qui met dans l'ordre du manger un ordre particulier qui tend à disparaître. La pénitence de l'Église, les temps de pénitence, ce carême, ça tend à disparaître. Sauf dans la vie religieuse, où ça doit exister toujours. Parce que ça fait partie de la tempérance du religieux. Alors, ça c'est le bien individuel. et le point de vue du bien sexuel, c'est l'espèce. Saint Thomas, à la suite d'Aristote, distingue bien cela. À la suite de Freud, on tend à ne plus distinguer. Alors on supprime la vertu chasteté. Ce qui arrive très souvent. En disant que la vertu chasteté est contre nature. Et non, elle n'est pas contre nature. Mais elle exige de l'homme de comprendre qu'il n'est pas fait pour soulager son appétit sexuel, mais qu'il est fait pour autre chose. Et que la vertu ne supprime pas l'appétit sexuel, mais le domine, l'oriente vers un bien supérieur. La vertu ne consiste pas à briser l'élan passionnel, l'arrêter, mais à l'élever, à l'éduquer en le rendant spirituel. C'est pour ça que la vertu fait qu'un être sensible, très affectif, très affectueux, deviendra plus sensible par la vertu. La vie religieuse nous rend plus sensibles, c'est sûr, comparativement à ceux qui vivent dans le monde et qui sont vertueux dans le monde. La vie religieuse nous rend plus sensibles parce qu'il y a une exigence spirituelle plus grande. Et l'exigence spirituelle doit descendre jusque dans le concupiscible et l'éros, la passion par rapport à tous les domaines sexuels, ça nous rend plus sensibles. C'est très curieux. Dès qu'on est plus spirituel, on est plus sensible. On essaie de rendre vertueux, c'est-à-dire capable d'être spirituel, tout le domaine sensible, d'être capable de devenir humain, tous les biens sensibles. La vertu, au point de vue chrétien, elle est transformée par la charité, la vertu de tempérance. La vertu de tempérance est transformée par la charité. C'est-à-dire que la charité exige à la vertu de tempérance d'aller plus loin. Exige à la vertu de chasteté d'aller plus loin. L'Église demande à ses religieux une chasteté parfaite. Et quand l'Église demande à ses religieux une chasteté parfaite, l'Église sait bien que cette exigence-là ne diminue en rien la personne humaine. Au contraire, elle lui permet d'être plus forte, d'aller plus loin dans la recherche de la vérité. Celui qui se laisse aller au bien sensible n'a plus tellement envie de chercher la vérité. C'est rare que vous voyez des ivrognes cherchant la vérité. Et sans aller jusqu'à l'ivrognerie, on peut quand même aimer un peu trop le vin, aimer un peu trop l'alcool. C'est-à-dire dès qu'on peut le prendre. et qui se demande une tempérance plus grande. Et il demande une chasteté parfaite. Et très facilement, les gens, quand ils regardent ça de l'extérieur, diront « Ceci arrête un développement psychologique. » Et c'est pour ça que, très facilement, ils ne comprennent pas la vertu de chasteté parfaite. La vertu qui empêche la passion de s'étendre, d'exaspérer tout le monde. Ah, très bien. Mais la vertu plus profonde qui rend l'homme plus spirituel, ça, c'est plus difficile à comprendre. Toutes ces vertus morales, cardinales, ont un rayonnement sur notre personnalité. Et à partir de ces vertus-là, il y a toutes les vertus familiales, comme dit saint Thomas. Les vertus familiales, c'est-à-dire les vertus nécessaires à la vie commune. La patience, la docilité, la manière douce, la douceur, ne pas être un être stoïque, la manière stoïcienne. Alors, on acquiert les vertus, mais on acquiert les vertus d'une façon tellement rigide qu'on devient, dans la vie commune, des lois ambulantes. Il n'y a rien de plus terrible de voir des lois ambulantes, de voir quelqu'un qui est toujours, toujours, toujours aux arrêts, toujours parce qu'il a de la peine de vivre charitablement. La charité augmente l'exigence des vertus, mais exigence augmente l'exigence de l'harmonie des vertus. Et il y a une harmonie chrétienne des vertus qui est très spéciale. Alors ce n'est plus l'amour d'amitié qui mesure, c'est la charité. Pour nous, c'est la charité. Mais philosophiquement, il est bon de voir que l'amitié joue ce rôle d'être mesure des vertus cardinales, et par le fait même de toutes les vertus humaines et familiales.